1 à 13. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient : Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. D'autres déclaraient : Nous sommes obligés de donner nos champs et nos vignes, de même que nos maisons en gage, pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. D'autres encore se plaignaient : Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs, et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage, et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère, et je pris la décision d'adresser de vives reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis : Quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Je convoquai une grande assemblée pour traiter leur cas. Je leur déclarai : Dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs, vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes, et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvèrent rien à répondre et gardèrent le silence. J'ajoutai : Ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas, comme des gens qui craignent notre Dieu, pour ne pas donner à nos ennemis des autres peuples l'occasion de nous couvrir de honte ? Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent : Nous ferons ce que tu demandes, nous rendrons ce que nous avons pris, et nous n'exigerons rien d'eux. Alors j'appelai les prêtres devant lesquels je fis prêter serment à ces gens d'agir comme ils l'avaient dit. Puis je secouai les pans de mon vêtement en déclarant : Que Dieu secoue de cette manière, loin de sa maison et de ses biens, celui qui n'aura pas tenu cette promesse, et qu'ainsi il soit secoué et laissé sans rien. Toute l'assemblée répondit : Amen, et loua l'Éternel. Et le peuple se conforma à cette décision.
Bonjour à tous. Merci Olivier pour la lecture, prédication. Et oui, l'histoire de Néhémie continue. Nous y sommes dans cette histoire depuis début septembre. Moi je trouve que c'est une belle histoire, Néhémie, avec des rebondissements, une vraie saga. C'est donc l'histoire d'un type, Néhémie, qui vivait tranquille sa vocation de fonctionnaire et qui un jour reçoit un appel où il fait le rêve d'aller reconstruire les murailles qui sont abattues à Jérusalem, à 1200 km de là où il est à Suse, à la cour du roi Artaxerxès. Jérusalem est au comble du déshonneur et Néhémie fait le rêve de rétablir la gloire de Dieu en reconstruisant les murailles de Jérusalem, la réputation de Dieu aux alentours. Et en même temps, Néhémie rêve pour les gens aussi de Jérusalem, pas seulement les murailles de Jérusalem, mais les gens de Jérusalem, parce que en même temps que les murailles de Jérusalem, ce sont les vies des habitants de Jérusalem qui sont restaurées. Des gens qui retrouvent du sens à leur vie, à leur existence, qui retrouvent aussi une identité en tant que peuple de Dieu. Il y a deux semaines, nous avons laissé Néhémie face à l'opposition. L'opposition, vous lisez tous l'hébreu, qui porte le doux nom de Sambala, à lire de droite à gauche, l'adversaire, le moqueur. Et c'est intéressant de voir le verset qui est noté, que j'arrive pas à lire quand même, ma vue baisse. Sambala prit très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien. Il prit très mal le fait qu'un homme soit venu chercher le bien des gens. Il le prend mal. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre, l'adversaire. Mais Néhémie et le peuple avec lui font quelque chose d'extrêmement simple face à l'opposition sambalisque ou sambalique ou sambalesque. Deux choses très simples. Il prie, vient prier, et il continue. Il prie, et il continue. Devant l'opposition, deux choses simples à faire. Prier et continuer. Eh bien, ils prennent aussi deux, trois mesures assez concrètes, mais il prie et il continue. Ce Néhémie, quelqu'un d'extraordinaire. Il lance un mouvement général. Malgré l'inertie, les Israélites sont au comble du déshonneur, il arrive à lancer un mouvement de reconstruction, tout le monde retrousse ses manches, et en plus, il parvient à maintenir l'élan. Je vous fais une confidence, mon mot anglais préféré, c'est le mot élan en anglais qui se dit « momentum ». Il y a un groupe de jeunes d'une église très connue de la région de Bordeaux qui s'appelle « Momentum ». Tellement important dans la vie chrétienne de poursuivre l'élan malgré l'opposition. Alors, on pourrait se dire, que peut-il arriver encore à Néhémie après ça ? Eh bien, le pire peut encore arriver. Et le pire pour un groupe avec un projet pour Dieu, avec un rêve pour Dieu, c'est d'avoir des problèmes en interne. Des problèmes avec des gens qui participent au même rêve. Parce que quand l'opposition vient de l'extérieur, c'est relativement facile à gérer. C'est pas si facile que ça, mais au moins on sait à qui on a affaire. Mais quand les problèmes viennent de l'intérieur, on a plus de mal à les cerner, à discerner. Ces problèmes sont complexes, ils nous touchent plus personnellement, émotionnellement, et puis surtout ils touchent à l'essentiel, l'unité. Quand il y a une crise interne, les gens ont tendance à se replier sur leur propre intérêt, à être sur la défensive. Le but, le rêve commun que les gens avaient partagé se perd dans la confusion des émotions, des blessures parfois, ou des objectifs particuliers. Alors les sourires se plastifient, les conversations deviennent superficielles, les salutations sélectives. C'est la crise interne. Alors, tous les groupes humains connaissent des crises internes. Les églises connaissent des moments de crise. Combien sont-elles qui ont sombré à cause de divisions, de crises internes ? Quand nous étions en Belgique, il y avait, c'était dans les années 90, dans les années 90, il y avait une église à Charleroi, nous on était à Bruxelles, mais une église à Charleroi qui avait fait un schisme. Ils s'étaient séparés en deux. Le problème dans cette église, c'est qu'ils étaient huit. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à se séparer, à faire un schisme à huit. Quatre d'un côté, quatre de l'autre. Au moins, ce n'était pas six d'un côté et deux de l'autre. On a des exemples comme ça. Mais ce n'est pas l'apanage des églises. Hein. Ça existe aussi dans le monde du travail, dans la famille, dans le couple, des crises internes. Dans des groupes d'amis, dans des équipes missionnaires, même si elles ont un projet magnifique, il y a des crises internes et à Jérusalem aussi. Un beau matin, Néhémie se retrouve avec une crise sur les bras, une crise à gérer. La voilà la crise. J'adore l'image de manifestante qui montre qu'il y a une vraie crise. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères, les Juifs. Une grande plainte s'élève, une plainte contre les frères, les Juifs. Mais ils sont tous Juifs. C'est pour ça qu'ils sont appelés des frères, des Juifs. Il s'agit donc bien d'un conflit interne, il n'est plus question d'ammonites ou d'arabes, d'ennemis extérieurs, mais des frères, il y a des tensions entre les frères. Alors de quoi s'agit-il ? Ben, il y a trois groupes de personnes, ou trois lieux de problème. Il y a des revendications sociales à trois niveaux. Les familles nombreuses. Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir des pour manger et survivre. Entre les lignes, on peut lire « Les murs, c'est bien, mais ça nourrit pas. Mes enfants, ils mangent pas de briques. On veut du pain. » Il y a deuxièmement les agriculteurs qui manifestent la question agricole au verset 3. « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos moissons, nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. » Cette construction des murailles demande des sacrifices, trop de sacrifices. On perd tout ici. Et puis, il y a des problèmes avec le fisc. Verset 4. « Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. » Il faut payer des taxes au roi de Perse, à Suse, à 1200 km de là. Et pour les payer, il faut emprunter, on s'endette et on est en faillite et on coule. On est en présence d'une vraie crise sociale, d'un mouvement social. Mais le problème, en fait, ce n'est pas les familles nombreuses, ce n'est pas les taxes du roi de Perse. Le problème, ce n'était pas non plus la construction de la muraille et du manque à gagner que cette construction générait. Le problème, c'est qu'il y avait parmi les Juifs des gens qui profitaient de la situation pour en tirer des revenus. Car les prêteurs chez qui on allait pour avoir un peu de blé pour nourrir sa famille ou pour payer les taxes, c'était ces frères juifs qui avaient eu un petit peu plus de chance dans la vie, qui avaient plus de moyens que la moyenne, et qui pratiquaient non pas l'usure, c'est-à-dire l'usure c'est interdit par la loi de Moïse, c'est prêter avec un intérêt exorbitant, mais qui prêtaient sur gage. Ça voulait dire, prêter sur gage, ça veut dire je te prête deux sacs de blé et je te prends ton champ en gage, si tu n'arrives pas à me rembourser les deux sacs de blé, je garde ton champ. Et ça, c'est permis par la loi de Moïse, mais sous certaines conditions, c'est légal. Mais même dans la légalité, il y a des profiteurs, il y a des situations où le légal peut devenir un moyen d'oppression et de vol. Et dans des situations de crise, la couverture légale peut cacher beaucoup d'injustice et d'égoïsme, et c'était le cas. Le légal n'est pas toujours éthique. Il y a des banques qui se faisait rembourser, j'ai vu ça sur Arte, deux fois la même taxe. C'est légal, disent les banques. Mais c'est vraiment pas éthique. Et cela, à Jérusalem, va jusqu'au point que certains vendent leurs propres enfants comme esclaves. Pour les filles, ça voulait dire des concubines. Et ils disent au verset 5, on est comme tout le monde, on aime nos enfants comme les autres et nous devons les vendre. Nous sommes sans ressources. Littéralement, il n'y a rien au pouvoir de nos mains. On ne peut plus rien. Alors, véritable crise sociale, avec la souffrance, la douleur. Et on attend la réaction du grand leader selon Dieu, ce grand visionnaire, qui nous a tous entraînés dans cette aventure. Une aventure qui va peut-être se terminer là, dans la crise interne, avec une émeute, une grève. De la violence peut-être. Pour de Néhémie, encore une fois, comment va-t-il gérer la crise interne ? Et le premier point, quand Néhémie gère la crise interne, il va d'abord discerner l'essentiel, les gens. Et au verset 6, il est écrit « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles. » Quand on cherche à relever les caractéristiques d'un leader, on parle souvent de sa persévérance, de sa volonté, de sa capacité à mobiliser, et on met rarement en avant sa capacité à s'irriter, à se mettre en colère. Et c'est pourtant ce qui caractérise Néhémie, c'est son irritabilité, un petit peu comme Jésus. Dans le temple, quand il prend des fouets, quand il renverse les tables, où il pique une colère monumentale, Néhémie, comme Jésus, était capable de s'irriter. Et heureusement, Néhémie s'est encore s'irriter, peut encore s'indigner de l'injustice sociale devant les choses qui sont inacceptables. Mais attention, il s'agit d'une irritation particulière qui n'est pas contre quelqu'un, mais qui est pour les gens. Une colère en faveur des gens et non pas contre les gens. Une colère à la mesure de son amour pour les gens comme celle de Jésus. Et Néhémie aime les gens de son peuple et ce qui est remarquable, c'est qu'il va pouvoir laisser son projet de reconstruction de côté. Il ne sera pas question de murs et de portes et de travaux. Il va mettre tout ça en veilleuse. Il va être question des gens. Il va s'occuper des gens. Il ne s'irrite pas parce que les travaux prennent du retard. Il s'irrite de voir des gens victimes d'injustice. Parce que les gens comptent plus que le programme. Parce que les personnes comptent plus que le projet. Parce que Dieu aime les gens. Le leader, selon Dieu, aime les gens que Dieu aime. Et dans cette crise interne, Néhémie reste fondamentalement un leader selon Dieu, selon le cœur de Dieu. La priorité reste aux gens. Et il a su, malgré les projets de reconstruction des murailles et des portes, un projet qui lui tient à cœur, le rêve qu'il caresse depuis longtemps, pour Dieu aussi, il a pu le mettre un petit peu de côté et rester sensible aux gens et à leur injustice sociale. Une question qu'on peut se poser, qu'en est-il de ma capacité à m'irriter? Non pas contre les gens quand ils nous perturbent dans notre confort, parce que là, on est encore capable de se mettre en colère, mais en leur faveur, en faveur des opprimés, en faveur des injustices, en faveur des victimes de la société et du système. Sommes-nous encore sensibles ou sommes-nous plutôt dans le statu quo? C'est la question que nous pose Néhémie dans la gestion de la crise interne. Discerner l'essentiel, les gens. Et puis, le deuxième mouvement, on va dire, de Néhémie, est beaucoup plus calme au verset 7. Et je pris la décision d'adresser les vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Mais je pris la décision, dans d'autres traductions, je résolus. Et littéralement, c'est intéressant de temps en temps l'hébreu, c'est mon cœur me conseilla de. Et il y a une version anglaise qui traduit je pris conseil avec moi-même. Donc une réflexion interne. Et il a besoin de cette petite réunion avec lui-même pour bien saisir l'enjeu de ce qui se passe. Parce qu'il y a de l'enjeu dans cette crise, il y a cette oppression inacceptable de ces prêteurs à gages, mais il sait aussi, et l'enjeu est là aussi, qu'il s'attaque aux riches et aux puissants, aux nobles. Et il risque de les voir partir, peut-être dans le camp de Sambala, l'opposant. Et s'ils s'en vont, Néhémie sait que sa mission, que sa vision, que son rêve s'arrête directement. Il a besoin d'eux, de leur soutien politique, financier, de leurs bras. Ils ont tort, ils sont injustes, mais il a besoin d'eux. Et ça, c'est le cœur du problème. Que faire? Provoquer une confrontation et risquer l'explosion ou laisser passer en essayant d'apaiser tout le monde, en remettant le couvercle sur la marmite? Confronter ou laisser aller? Et nous sommes parfois devant des choix du même acabit. Quand on est parent, par exemple, on est parfois devant ce choix difficile. Si je réagis un peu fort, il risque de ne plus m'aimer. Et pourtant, il a fait quelque chose de plus ou moins mal qu'il faut corriger. Mais en même temps, j'aime qu'il m'aime. Je préférerais laisser aller. Mais ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Des gros dilemmes comme ça. Et dans le travail également, on est devant des situations injustes ou malhonnêtes. Que choisit-on de faire? Confrontation ou échappement? Il y a aussi pour l'Église la tentation de mettre le couvercle. Ah merci, je n'avais pas vu. Le couvercle sur des situations injustes pour éviter l'inconfort de la confrontation. Et Néhémie, dans sa réunion avec lui-même, choisit de prendre des décisions courageuses et il choisit le courage. Et il dit « Je résolus de faire des reproches aux grands et aux magistrats. » Et il ne choisit pas le plus facile. Il choisit d'ouvrir la bouche pour ceux qui ne peuvent pas parler, comme le dit le proverbe « Ouvre la bouche pour ceux dont les droits sont délaissés. » Il y a le défi Miché qui a repris ce verset souvent. Néhémie est un leader courageux. Et vous allez le voir avec moi, j'aime parler du courage. Je crois que j'ai déjà dit ici, c'est peut-être parce que j'en manque parfois, souvent. Lui, c'est un leader courageux qui ne sacrifie pas les personnes ni la vérité sur l'autel de la réussite de son projet. Vous savez, on parle de Martin Luther comme étant vraiment un des hommes les plus intrépides qui soit sur le chemin vers Worms. Pour la diète de Worms, la conférence de Worms avec l'empereur Charles Quint, on ne sait pas s'il était vraiment là, mais il y avait en tout cas le représentant du pape, il risquait sa vie, il risquait d'être mis au banc de l'Empire, c'est-à-dire que chaque personne qui le rencontrait pouvait le tuer et remporter la récompense. Mais voilà ce qu'il dit, vous pouvez tout attendre de moi, sauf la peur et la rétractation, je ne fuirai pas. Et quand ses amis lui font part des graves dangers qui l'attendent, il dit, j'irai à Worms, même s'il y a autant de démons que de tuiles sur le toit. Il savait parler imagé, Luther. Et quand on lui demande d'abjurer, il dit, non, je ne crois ni au pape ni au concile, ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne ferai pas l'économie de l'obéissance à la parole de Dieu pour sauver ma peau. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques jours avant sa mort, Luther, très honnêtement, repensait à cet incident et disait « Je n'avais peur de rien à l'époque. Dieu peut rendre quelqu'un désespérément hardi. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais être d'aussi bonne humeur, aussi courageux qu'il ne l'avait été. » Il a bien conscience, Luther, que ce courage, c'est Dieu qui le donne. Et il le donne quand on en a besoin, et il le donne à ceux qui le lui demandent sans faire de reproches. Soyons-nous aussi des hommes et des femmes courageux pour la gloire de Dieu, et par amour pour les gens et pour la vérité, restons fermes, soyons intrépides, audacieux. Ne soyons pas toujours dans l'évitement ou l'étouffement, sachons demander à Dieu cette qualité essentielle pour la vie chrétienne, pour la vie relationnelle, le courage. Et donc, Néhémie va organiser une petite confrontation avec les grands, les magistrats, et il va convoquer une assemblée générale. Et si on regarde la fin de l'histoire, vous l'avez entendu tout à l'heure, au verset 13, toute l'assemblée va dire « Amen » à la fin de cette assemblée générale. Que s'est-il passé entre ces deux moments, cette convocation et ce moment où l'Assemblée dit « Amen » alors qu'il y a une confrontation qui risque de quand même d'être assez explosive. Et là, le premier de sous-point, on va dire, c'est qu'il a dit la vérité, il a eu le courage de dire la vérité. La vérité parfois difficile à dire, parfois crue, mais qui libère et qui clarifie. L'injustice naît parfois d'un manque de clairvoyance, d'une situation confuse, et Néhémie clarifie et il leur dit quelque chose, je paraphrase, et je prends la place de Néhémie, vous voulez que je vous dise en clair ce que vous avez fait? Parce que c'est un peu, personne ne se rend compte vraiment de l'injustice qui a eu lieu, sauf ceux qui la subissent, et Néhémie dit, eh bien voilà la situation, il y a des gens qui ont racheté des frères juifs qui étaient sous l'esclavage de maîtres non-juifs, on a payé pour les libérer, et vous les faites vendre de nouveau. C'est tout simplement scandaleux. Et même si c'est à des frères juifs qui sont vendus, il y a vente quand même. Il y a esclavage. On ne s'en rendait pas compte. Oui, c'est vrai, maintenant que tu clarifies. Et donc la vérité, parfois, clarifie la situation. Et les prêteurs à gages ne l'avaient peut-être pas vu sous cet angle, ou avaient fait semblant peut-être de ne pas le voir, mais sous cet éclairage, ah oui, c'est vrai, vu de cette manière, et que font-ils? Eh bien, ils ne font rien. Verset 8, ils se turent. Et ils ne trouvèrent rien à répondre. Et Néhémie va plus loin dans la clarté. Ce que vous faites n'est pas bien, dit-il. Ce que vous faites est mal. La vérité, c'est que c'est mal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre et indigent. Tu ne l'opprimeras pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas en rapport avec la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et ce n'est pas un bon témoignage non plus pour ceux du dehors, pour les nations païennes, les goïms, qui nous regardent et qui doivent se dire, eh ben, chez le peuple de Dieu, c'est compliqué, hein ? Ils se tirent dedans. C'est mal. Et on doit se rappeler que Néhémie dit ça à des gens puissants dont il a besoin. Et il leur dit la vérité sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils... Non, sur ce qu'ils font seulement, pas sur ce qu'ils sont. Et je lisais un commentateur qui signalait le profond respect de Néhémie pour la vérité. Il n'abaisse pas les normes bibliques pour sa propre sécurité, il ne dilue pas les frontières pour éviter les problèmes, il aime la vérité. Alors en disant cela, et en parlant de la vérité, de dire la vérité, j'ai toujours un peu peur que quelqu'un sorte d'ici et puis pendant l'apéritif me dise « toi, t'as une tête qui ne me revient pas ». Je te dis la vérité, rien que la vérité. Ça arrive parfois, je caricature un peu, mais je te dis, toi, j'aime pas ton genre, toi, j'aime pas ta dégaine. Vous savez, comme moi, tous ces j'aime ou j'aime pas qu'on peut vous balancer à la figure, ça, c'est la vérité version catastrophe. Et je vous rappelle le principe du Nouveau Testament, dire la vérité avec amour, et Néhémie savait tellement le faire. Et Jésus aussi. Et Néhémie avait ce capital d'amour, de passion pour les gens qui lui permettait de dire la vérité, une vérité qui passe, qui transforme et qui libère aussi. Il fait une deuxième chose, il a le courage de montrer l'exemple. Il va dire quelque chose un petit peu particulier, je ne sais pas si vous l'avez noté à la lecture. Nous aussi, va-t-il leur dire, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Alors je ne sais pas si Néhémie avait été un oppresseur. Mais certainement, il avait quand même prêté un peu, alors il s'inclut dedans, et dans la solution aussi, il s'inclut. Remettez-leur donc cette dette. Remettons-nous. Vous avez compris ? Néhémie, il n'est pas juste dans le précepte du « il faudrait que, il n'y a qu'à ». Il montre l'exemple. Lui aussi va remettre la dette. Pour l'éducation des enfants, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est Albert Schweitzer. Il disait qu'il y a trois manières d'éduquer les enfants. La première, c'est l'exemple, la deuxième, c'est l'exemple, la troisième, c'est l'exemple. En fait, il n'y a qu'une manière d'éduquer ses enfants, c'est l'exemple. Il y a une puissance dans l'exemple, il y a du courage à avoir aussi pour être exemplaire. Une puissance dans l'exemple qu'il faudrait redécouvrir encore et encore. Et puis, je passe un peu plus vite, mais il lance un défi. Des défis clairs et concrets. Rendez-leur, verset 11. Je vais le lire comme ça, je ne me trompe pas dans les pronoms personnels. Rendez-leur aujourd'hui même leur champ. Rendez-leur aujourd'hui même et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont d'accord. Verset 12, ils répondirent, nous ferons ce que tu demandes, nous rendrons ce que nous avons pris et nous n'exigerons rien d'eux. Un défi clair, on va le faire maintenant, tous ensemble. Il a gagné la partie, la crise est sur le point d'être résolue. Mais il rajoute encore deux choses. Il va faire venir les sacrificateurs pour qu'ils prennent note des vœux. Parce que Néhémie connaît la nature humaine, les engagements non tenus, les promesses en l'air, les effets d'annonce. On a eu ça aussi en politique. Il faut des engagements clairs, officiels. Je me souviens, notre deuxième enfant, Simon, qui est passé par là début septembre, début août, il avait 10-11 ans, et dans la voiture, j'ai fait aux trois d'ailleurs, la promesse d'un grand cadeau s'ils arrivaient à 18 ans sans avoir fumé. Et puis j'entends une petite voix qui me dit « Papa, tu pourrais le noter, s'il te plaît ?» Parce que les grandes promesses comme ça... Alors, il n'y en a aucun qui a fumé, en tout cas, peut-être en cachette, mais pas devant nous. Et j'ai oublié de faire le cadeau, mais bon, bref. Et je pense qu'en tant que chrétien, on ne doit pas non plus avoir peur des engagements officiels. Ils font partie de la vie chrétienne normale, s'engager. Et puis, il ajoute une deuxième chose, une petite scénette. Il prend la poche de son manteau, là où il traîne toujours un petit quelque chose, et il le secoue devant tous, en disant « Dieu secouera de la même manière celui qui ne tiendra pas parole. » Il savait parler imagé aussi. Néhémie. Le sens du spectacle, et les gens qui ont vu cela s'en souviendront, c'est marquant. Mais il prend encore un risque, obéissez, faites comme moi, restituez, et si vous ne le faites pas, voilà ce qui va vous arriver. Quel culot encore. Mais aussi le sens de la présence de Dieu, de l'intérêt de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est en quelque sorte ceci, j'ai été irrité par cette affaire, mais imaginez l'irritation du Dieu trois fois saint. Moi c'est rien. À côté de la colère de Dieu, ma colère est teintée de péché, mais la sienne est pure. Si vous saviez comment Dieu s'intéresse à votre repentance et à votre résolution. Cette histoire n'est pas entre vous et moi, dit Néhémie, cette histoire est entre Dieu et vous. Et parce que, je pense qu'il y a un lien de cause à effet, parce que Néhémie savait prendre des risques pour Dieu, le peuple répond, et on l'a lu tout à l'heure, « Amen ». Le verbe hébreu « aman », c'est vrai. « Amen, amen », dit Jésus, « en vérité, c'est vrai ». Et on a l'impression bon, qu'ils sont d'accord, mais aussi qu'il y a un certain soulagement. Ils sont quelque part soulagés d'avoir entendu la vérité. La vérité, on se la cachait depuis trop longtemps, avec le malaise que cela provoque, le malaise de mal faire, en sachant confusément qu'on fait mal, mais sans avoir la force de changer. Et puis Néhémie dit la vérité, il lance des défis, et on les accepte et on est soulagé, parce que la vérité soulage. Soulagé de marcher de nouveau dans la vérité, soulagé de nouveau faire le bien, soulagé d'être sensible de nouveau aux gens qui nous entoure, soulagé d'apporter un changement dans le monde. Oui, et toute l'assemblée dit Amen. Que Dieu nous donne de suivre l'exemple de Néhémie pour gérer d'une manière spirituelle nos crises internes et d'une manière générale pour vivre nos relations avec les autres. Que nous puissions le faire comme des véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Et je ne sais pas si Fabrice, je t'avais écrit un petit mail pour qu'il y ait un temps musical.
Une foule nombreuse suit le maître. Elle espère voir un miracle. Comment la nourrir ? Il n'y a là que 5 pains et 2 poissons. Jésus l'a fait asseoir, la foule. Prends les pains et les poissons, rends grâce à Dieu et les donne à la foule. Ils mangent tous à leur faim. Quand ils sont rassasiés, on ramasse les restes. Ils remplissent 12 paniers. La foule est impressionnée. S'il est capable de nourrir 5 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, alors c'est vraiment que Dieu est avec lui. Plus rien ne pourra lui résister. Allons à lui et faisons-le notre roi. Mais Jésus s'esquive. Sa royauté n'est pas de ce monde. Il se sauve dans la montagne et se retrouve seul. Dans la nuit, les disciples traversent le lac. Lui aussi. La foule le cherche, le trouve et l'interroge. Elle veut d'autres miracles pour croire en lui. La multiplication des pains lui rappelle la manne que leurs ancêtres ont mangée au désert. Peut-être est-il un nouveau Moïse ? Jésus leur dit, « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain, mais c'est mon Père qui donne le pain, le vrai pain venu du ciel. » Ils lui disent, « Alors donne-nous de ce pain-là. » Jésus répond, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »